Jean Lebrun, le vif de l'histoire, en cette période où nous pensons un peu plus que de coutume aux tombes, vous vous intéressez à un documentaire à la télévision ce soir à propos d'un de nos grands écrivains, Montaigne, le tombeau mystérieux.
Alors l'auteur des essais est mort en 1592, sa fille a fait déposer son cœur dans l'église de son village, sa veuve a transféré le corps à Bordeaux au couvent des Feuillants, puis en 1593 y a fait édifier un cénotaphe. Cénotaphe, c'est pas une tombe, hein, c'est un monument funéraire, Bruno.
Bien, je note.
Le cénotaphe est toujours visible, malgré les bouleversements qu'a connu l'endroit. Transformation en lycée, puis en faculté, enfin en musée d'Aquitaine. En revanche, on avait perdu la trace de la tombe. En 2019, des fouilles entreprises dans les sous-sols de la réserve du musée permettent de retrouver un cercueil de bois portant une plaque Michel de Montaigne et contenant un cercueil de plomb qui laisse voir par ses fêlures des os de jambes. Le documentaire présente toutes les questions qui se posent après l'investigation. Est-ce qu'on a retrouvé des descendants de Montaigne pour étayer les analyses d'ADN? Est-ce qu'on a retrouvé quelques-uns des calculs rénaux dont se plaignait l'écrivain? Il faisait la collection de ses calculs de son vivant. Je vous laisse regarder le documentaire, mais attention, une passe que sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.
Alors, imaginons qu'il laisse bien des pistes ouvertes, reste le cénotaphe.
Alors, le musée d'Aquitaine, qui décidément sait faire parler de lui, l'a restauré grâce à une campagne de levée de fonds privés. Mmh. Il représente un gisant en armure dont les pieds reposent sur des lions. On n'a pas nécessairement cette image de l'auteur des essais quand... Il imagine plutôt arpenter de long en large sa bibliothèque, dictant ses essais en même temps qu'il observe tranquillement la vie de son domaine. Mais après tout, dans l'époque où il a vécu, mieux valait sortir couvert.
L'époque des guerres de religion, l'historienne Anne-Marie Cocula, qui a participé au documentaire de France 3, dit que dans ces années, la guerre civile s'était mise en ménage avec la disette.
Jolie formule, il est très bien écrit le livre de Cocula. Pour bien marquer qu'en quelques mois, on pouvait vivre les expériences les plus extrêmes, elle consacre donc ce livre tout entier, chez un éditeur de Nouvelle-Aquitaine, cœur de Bastide, hein, Fanlac, à la seule année 1588 dans la vie de Montaigne.
Un seul livre sur 1588
dans Montaigne la vie de Montaigne. Montaigne a décidé de partir de sa tour tranquille, où il se voulait bon ménager de sa seigneurie pour rejoindre Paris. Il a pris la précaution de se faire escorter par le fils du maréchal de Matignon, qui n'était pas rien puisqu'il était ce maréchal lieutenant général du roi Henri III en Guyenne. Il n'empêche, longueur et hasard des chemins font que la petite troupe est détroussée aux confins du Périgord et de la Charente. Montaigne manque d'y perdre la version longue des essais qu'il allait faire éditer pour la première fois à Paris et qu'il conservait dans la selle de son cheval, semble-t-il. Paris, qui va l'effrayer alors qu'il l'aime tendrement. Montaigne se réjouissait de voir le chantier du Pont-Neuf, mais il le trouve interrompu par les troubles. Les ligueurs catholiques qui dénoncent la pestilente sédition des protestants accusent le roi Henri III de la protéger. Vous voulez pas mon anagramme, Bruno? Henri de Valois s'est transformé en vilain Hérode. Ah, vous savez, le tyran Hérode de l'Évangile, anagramme. Henri III doit d'ailleurs fuir sa capitale peu après l'arrivée de Montaigne, qui, loyal et préoccupé de le rapprocher d'Henri de Navarre, l'héritier désigné, le futur Henri IV, le suit à Rouen. Oui, il se passe beaucoup de choses en 1588, d'autant que revenu à Paris, Montaigne est embastillé, miraculeusement une journée seulement. Enfin, il rejoint Blois, où Henri III a convoqué ses états généraux qui vont s'avérer calamiteux.
Et 1588 continue?
Oui, alors Montaigne n'a qu'une hâte, c'est retrouver sa tour.
On le comprend.
Mais la sécurité de son domaine est rien moins qu'assurée. Il suffirait que les bandes de ligueurs du Bordelais et du Périgord fassent leur jonction. Qu'adviendrait-il de lui, réputé loyal à Henri III, et qui a reçu le futur Henri IV par deux fois? Lui parvient au printemps 1589 la nouvelle de la mort terrible de son collègue Duranty, parlementaire comme lui, mais à Toulouse. La foule, dite catholique, l'a lynché et a accroché son corps sur une grille de fer avec au cou une caricature d'Henri III. Revient aussi à Montaigne le souvenir de ses 15 ans, là c'était à Bordeaux, et le représentant du roi avait été massacré et mutilé non loin de lui. Alors on comprend le choix de l'armure pour la dernière image de Montaigne. Et si vous voulez une leçon, il semble que dorénavant faire de la politique, c'est devoir choisir sa guerre civile, guerre des générations, des gens, des races. Montaigne refusait cette vision aussi dangereuse que paresseuse parce que lui savait d'expérience ce qu'est la guerre civile.
Et c'est lui qui disait que tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas quitter leur chambre, c'est ça? Sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, donc le document Montaigne, le tombeau mystérieux, et chez Fanlac, éditeur local, le livre d'Anne-Marie Cocula, Montaigne 1588.